Alors, nous allons maintenant écouter Blandine Chély-Nippon et Marie Gaëtte Lebrun. Alors, Blandine, c'est aussi une habituée de la FSR. Hein, elle revient régulièrement. Donc, Blandine est à la fois historienne et juriste, professeure à l'université d'Aix-Marseille, membre associé au GSRL. Et Marie Gaëtte Lebrun est maîtresse de conférence en civilisation nord-américaine à l'université de Toulon. Et toutes les deux travaillent sur les droites chrétiennes aux États-Unis. Et donc, c'est autour de cette thématique qu'elles vont intervenir. Et je les remercie. J'ai dit au début qu'on leur laissait un tout petit peu plus de temps. J'aurais peut-être pas dû m'avancer comme ça. Disons une 12 minutes chacune, mais je n'irai pas au-delà de... On vous écoute.
Bonjour à tous. Notre présentation, qui avait été pensée en amont du résultat des élections présidentielles dernières, avait comme objectif de confirmer une hypothèse sans doute hasardeuse, envisagée par certains à partir des deux administrations Obama, et c'est une hypothèse que nous partagions avec enthousiasme, de ce que la configuration qui s'était mise en place à la fin des années 1980 d'une captation du vote religieux par le Parti républicain, maintenue dans les années 90 et le début des années 2000 à travers les grands thèmes de la guerre culturelle, eh bien cette captation était en train de déprendre et un rééquilibrage se manifestait dans le vote religieux. Donc le vote religieux, je le définirais très grossièrement comme le vote motivé par une appartenance confessionnelle précise et ou par le degré d'engagement dans cette confession. Donc un rééquilibrage se serait manifesté en corrélation avec un certain essoufflement des thèmes mobilisateurs habituels pour cet électorat et l'avènement d'autres thèmes, redonnant au Parti démocrate une crédibilité suffisante pour le recapturer en partie. Donc nous faisions le pari d'une dépolarisation et d'un glissement possible plus équilibré du vote religieux entre droite et gauche américaine. L'élection présidentielle de 2016 est passée par là et paraît avoir balayé notre hypothèse avec, comment dire, grande facilité et montrer la solidité de la configuration vote religieux droite américaine, puisque, comme vous le savez, les électeurs croyants ont voté pour Trump très massivement, par exemple pour les évangéliques à 80%, et assez confortablement pour les catholiques à 52%, avec une variable importante chez les catholiques de leur pourcentage en faveur de Trump, selon qu'ils sont blancs ou hispaniques. On verra ça tout à l'heure. Donc il semble également que les électeurs croyants aient joué un rôle décisif dans la confortable majorité républicaine du 115e Congrès. Et notre hypothèse d'une dépolarisation des ressources religieuses en cours semble avoir volé en éclats. Les ressources électorales de la droite religieuse semblent, de leur côté, ne s'être jamais mieux portées, alors qu'on avait pensé qu'elle était sur le point de se défaire. Donc, fin de notre hypothèse. Cependant... Les thèmes qui ont vraiment fait mouche pour mobiliser les électeurs qui se considèrent comme religieux en faveur de Trump, on vous présente une nouvelle hypothèse. On subit une mutation et ce n'est pas tant les thèmes de la guerre culturelle interne qui ont été décisifs à notre avis en tant que tels, c'est-à-dire l'avortement, le mariage gay, le sécularisme, qu'une mobilisation stratégique autour de l'identité chrétienne de l'Amérique face au danger, si ce n'est à l'ennemi islamique désigné comme tel. Et donc une autre configuration s'est mise en place peut-être, que l'on entrevoit dans la représentativité confessionnelle du Congrès. Nous serions face à une autre sorte de polarisation, à un nouveau clivage, où même si le nouveau président donne des gages très sérieux et s'entoure d'adeptes de la droite religieuse, de sorte que jamais dans le passé il n'est arrivé que des tenants de cette tendance soient à ce point associés au pouvoir, eh bien le nouveau président a réussi à fabriquer pendant sa campagne un discours fédérateur autour de sa personne sur une mobilisation réactive à la personne bien sûr de Barack Obama, ce qui représentait, et à celle d'Hillary Clinton, réactive à l'ouverture affichée de leur parti au pluralisme religieux et social, et confondant les deux dans l'accusation de leur parti pris musulman et de l'attitude antichrétienne de leur politique interne et internationale. Donc cette mobilisation, elle a quand même réussi à contaminer tout le parti républicain d'une coloration chrétienne assez homogène qu'il ne possédait pas à ce point auparavant, de sorte que nous nous trouvons du point de vue de la relation entre parti politique et religion aux États-Unis avec un parti républicain qui se profile depuis novembre en bloc identitaire, chrétien engagé, majoritairement blanc protestant, et un parti démocrate qui se profile un autre bloc pluraliste, où les chrétiens protestants ne sont pas majoritaires, un tiers est catholique, et où se trouvent tous les élus non chrétiens. Donc en sachant que 68% des sans-religions ont voté pour Hillary Clinton, on suppose que l'électorat sans religion, qui est de plus en plus important, a également voté majoritairement pour les démocrates au Congrès. Donc il y a peut-être une repolarisation des deux grands partis politiques autour d'une utilisation ouverte ou fermée de la religion comme variable centrale du clivage politique. Donc je vais... Combien de temps il me reste?
T'as parlé 6 minutes là.
J'ai parlé 6 minutes. Donc, je vais donc présenter un peu la situation avant les élections de 2016, élections présidentielles et parlementaires, et Marie va commenter les résultats des élections elles-mêmes. Donc, en partant d'une lointaine situation historique, durant laquelle les deux grands partis se sont servis tout au long de leur histoire de la ressource religieuse de manière assez équivalente, et sans doute le parti démocrate plus que le parti républicain avec beaucoup de bonheur. On se retrouve au début des années 60 avec toute une série de facteurs dont la déségrégation, la fracture également catholique dans cette même époque, l'avènement d'une certaine sécularisation de la société américaine qui s'est traduite aussi par un libéralisme sexuel aussi rapide qu'inattendu. Et à partir de là, la ressource religieuse a été captée partiellement, puis presque complètement par le camp républicain, notamment grâce à la mobilisation d'acteurs religieux dans les années 70 qui ont fabriqué une alliance fondamentaliste évangélique catholique assez solide. Cette Christian Right qui a elle-même formé une alliance avec la première génération des conservateurs au pouvoir. Donc la droite religieuse a alimenté au sein du Parti républicain un dispositif rhétorique efficace et électoralement gagnant de réaction à la libéralisation de la société, à sa sécularisation également. On a donc dans les années 90 et particulièrement de 1994 à 2006 un temps de forte osmose entre le vote des électeurs croyants et les propositions politiques du Parti républicain comportant un nombre impressionnant de thèmes religieux, la défense de la vie contre l'avortement légal, la défense de la famille contre les unions libres, l'homosexualité socialement tolérée, contre le mariage gay, la défense de la liberté religieuse contre les empiètements de l'État, contre les assauts des ennemis sécularistes, la défense enfin du caractère chrétien de la Constitution américaine contre tous ceux qui sont traîtres à son esprit et aux intentions des pères fondateurs. Et donc toute une série de lois et de projets de lois fédérales à caractère religieux, elles ne sont pas toutes passées, mais en tous les cas elles ont été votées ou discutées, y compris cet amendement constitutionnel sur le mariage fédéral hétérosexuel. Donc en face, le Parti démocrate a semblé parfaitement revendiquer son indifférence affichée aux valeurs religieuses, l'accueil des personnes non religieuses, le droit des femmes, dont celui de maîtriser sa fécondité, donc d'avorter, etc. Et à partir de 2006 et avant l'élection de Barack Obama en 2008, un argumentaire se développe au sein du Parti démocrate pour rattraper ce religious gap qui va être un leitmotiv de la campagne présidentielle de Barack Obama, sur le mode qu'il était très regrettable pour la gauche d'avoir abandonné la religion à la droite, qui avait rétréci et déformé à son profit la formidable source d'inspiration et de progrès démocratique que la religion représentait depuis toujours aux États-Unis. Et ce virage de 2008, bien sûr, avec d'autres raisons qui expliquent sa victoire, a permis quand même une dépolarisation relative pendant la campagne entre les rouges et les bleus sur la question religion, malgré la virulence de la bataille, notamment des évêques américains, contre la licéité de l'avortement et le thème de l'islamité de Barack Obama. Et un transfert électoral s'est produit. 54% des catholiques ont voté pour lui, dont 67% de catholiques hispaniques, mais également, on va dire que c'est à la marge, 90% des 2% de musulmans américains. À nouveau, 60% de la population juive et même 26%, tout jamais atteint, du vote des évangéliques, un score absolument incroyable. Donc, cette première mandature a été suivie d'une seconde que je n'ai pas le temps de décrire, mais dans laquelle le phénomène, j'allais dire, de décentrement, dont j'avais des tas d'exemples, se manifeste et se continue, même si les résultats des élections de 2012 ont été moins ouverts en quelque sorte que de 2008. Je suis tellement désolée. Donc arrive cette dernière campagne électorale de 2016, et avant que Marie ne vous explique ce qui s'est passé, je voudrais vous rappeler ce que plusieurs analystes pensaient de la situation. Dans un climat général où les thèmes religieux traditionnels pendant la campagne n'avaient pas eu l'air d'avoir l'intérêt habituel de la part des électeurs, focalisés sur la destruction des emplois, le creusement des inégalités, la crise de l'environnement et la peur du terrorisme, ces analystes pensaient avant les primaires, un, que le candidat Trump était un vrai repoussoir pour les acteurs religieux traditionnellement catégorisés à droite, et que ces acteurs montraient un vrai dégoût pour le personnage. Et nous avons des tas d'exemples de déclarations publiques de ces acteurs contre Trump. Et ces analystes pensaient aussi, après les primaires, que la droite religieuse allait exploser à cause de la candidature de Trump, de ce que les catholiques conservateurs, à la différence des évangéliques, qui disait dans les sondages voter comme un seul homme pour Trump, le sauveur de la grandeur américaine, eh bien, les catholiques conservateurs continuent à rejeter la candidature de Trump, cependant que l'électorat catholique, dans son ensemble le plus large, basculait pour tout un tas de raisons vers le vote de Hillary Clinton. Et nous avons eu tous les sondages, je dis bien tous les sondages, jusqu'au dernier sondage, qui attestaient cette préférence démocrate. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc, je reprends le fil pour dire que, effectivement, le résultat des élections fait vraiment mentir
tout ce à quoi on pouvait s'attendre avec Blandine, mais pas que avec Blandine, avec tout un tas de commentateurs et d'observateurs de la vie politique américaine. Les pratiquants, donc les évangéliques, ont voté pour Trump, et c'est vraiment le plus haut score jamais atteint. Même, ils ont fait mieux que pour George Bush, fils, qui était pourtant l'un d'entre eux. Les catholiques blancs ont voté dans leur majorité pour Trump, et en fait les pratiquants, ça c'est vraiment intéressant, ont voté pour Trump. Donc plus on est pratiquant, plus on va à la messe, à l'office religieux, et plus on a tendance à avoir voté pour Donald Trump. Donc de quoi s'agit-il ? Je voudrais vous donner quelques éléments d'analyse de cette recomposition du vote religieux raté. La première, tout d'abord, c'est qu'en 2016, je crois qu'on peut dire que le Parti démocrate a tourné le dos à l'électorat religieux. Déjà, il a pris acte d'une fracture qui s'est opérée du fait de la réforme de santé de l'administration Obama, qui a beaucoup cristallisé les tensions du soutien de l'administration Obama au mariage homosexuel, entre autres choses. Donc on a vraiment vu une espèce de resserrement, une alliance œcuménique conservatrice religieuse qui a pris vraiment des proportions inédites en opposition à l'administration Obama. Et il y a eu aussi une réflexion chez les démocrates de se dire, après tout, on n'a pas besoin de ce vote religieux. Parce qu'il y a un vote qui est vraiment en train de prendre de l'importance, ou en tout cas un groupe démographique, ce sont les nones, les sans-religion aux États-Unis, dont le pourcentage dans la population américaine explose littéralement. Entre 2007 et 2014, on est passé de 16% de la population à 22,8%, et d'après les derniers chiffres, on serait autour de 25%. Hein, donc l'idée, c'est de se dire que, d'autant plus, ce groupe démographique est particulièrement surreprésenté dans les jeunes générations, ce qui augure quand même d'une sécularisation durable de la société américaine. Donc pourquoi s'embêter à essayer de faire le grand écart, à séduire des sécularistes et des religieux conservateurs ? Les évolutions de la société américaine aussi laissent penser qu'il n'y a peut-être plus vraiment péril en la demeure, qu'on peut se concentrer sur cet électorat séculier, progressiste. Pour la première fois en 2010, 50% des Américains, et ça ce sont des sondages qui ont été répétés, se montrent favorables au mariage homosexuel. Donc c'est vraiment un basculement dans la société américaine. Et tout ceci se manifeste par un désintérêt notoire pour l'électorat religieux conservateur de la part des démocrates. On sait que Hillary Clinton a refusé d'aller parler à l'université catholique Notre-Dame, qui est la plus prestigieuse du pays. Ses conseillers ont dit que ce n'est pas un groupe d'électeurs qui nous intéresse. Les catholiques blancs, ce n'est pas un groupe d'électeurs qui nous intéresse. Peut-être une petite erreur de stratégie, on va dire. De même, le programme du Parti démocrate comprend tout un tas de promesses qui sont de véritables repoussoirs pour l'électorat religieux conservateur. Alors, un autre facteur peut-être à souligner, c'est que les progrès enregistrés par le Parti démocrate en 2008 sont plutôt, semble-t-il, des progrès de nature conjoncturelle qui cachent vraiment une dimension structurelle du vote religieux aux États-Unis, qu'il est très difficile, ça c'est le politiste James Guth qui l'a démontré, de faire évoluer autrement qu'à la marge. Parce que pour lui, quand on est un religieux conservateur, certes, on adhère au Parti républicain du fait de sa position sur les questions sociétales, mais aussi de sa position en politique étrangère, de sa position sur l'économie, la réduction de l'État-providence, etc. Donc c'est tout un ensemble d'articles de foi qui font que les religieux conservateurs adhèrent au Parti républicain. Et puis, contrairement à l'inverse de tout ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est aussi les facteurs propres à Donald Trump, à la candidature de Trump, qui, bien loin d'être un repoussoir, ont constitué en fait un certain attrait. Puisque, d'une part, Donald Trump, il a su se positionner sur les chevaux de bataille traditionnels de la droite chrétienne. Il a choisi un membre de la droite chrétienne comme son colistier, un Mike Pence. Il a fait des promesses sur l'avortement, notamment la nomination d'un juge à la Cour suprême qui ferait bouger les lignes sur la question de l'avortement. Il a promis d'arrêter le financement du planning familial. Il a promis de permettre la distribution de chèques pour scolariser les enfants dans le privé, etc., etc. Donc autant de sujets qui sont vraiment des sujets clés pour les religieux conservateurs aux États-Unis. Et puis, au-delà de ces promesses, si vous voulez, traditionnelles faites à la droite chrétienne, il y a aussi, il a su, si vous voulez, être à l'écoute de cette évolution dont parlait Blandine vers un mouvement chrétien, entre guillemets, identitaire. C'est-à-dire que les chrétiens blancs aux États-Unis se sentent menacés, marginalisés, raillés, voire par les élites, par les médias. Et il a su vraiment capter cette évolution. Et il s'est fait un peu le défenseur de cette minorité, enfin de ce groupe d'Américains qui est en train de devenir une minorité chrétienne. Donc quelques éléments. Une enquête de 2014 qui montre que les chrétiens blancs sont en passe de devenir une minorité dans la population américaine, puisque s'ils représentent 67% des plus de 65 ans, dans la catégorie des 18-29 ans, ils ne représentent plus que 29%. Donc ça semble quand même indiquer un déclin démographique auquel est promis ce groupe démographique. Donc il y a tout un tas, si vous voulez, de facteurs, d'événements, de développement. Le fait aussi que chez les évangéliques blancs, les catholiques, on a l'impression vraiment d'une hostilité à la religion qui serait en train de se développer, notamment pendant la présidence de Barack Obama. Donc on voit que de plus en plus d'évangéliques blancs estiment que l'administration Obama est hostile à la religion, hein, mais pas que les évangéliques blancs. Il y a même un sentiment de persécution religieuse dont se disent victimes les chrétiens blancs et notamment les évangéliques. On voit que les chiffres concernant ce sentiment n'ont fait qu'augmenter et l'augmentation est vraiment significative. Et ça, c'est lié à tout un tas de mesures qui ont pu être adoptées et puis un climat aussi qui leur semble hostile à leurs valeurs et à leurs intérêts. On parle même du fait que la discrimination à l'endroit des chrétiens serait devenue un phénomène aussi grave que la discrimination vis-à-vis d'autres groupes ethniques ou ethno-religieux. Et ça, c'est le cas. Les protestants blancs évangéliques sont à 70% à dire que oui, la discrimination contre les chrétiens aux États-Unis est un phénomène aussi grave que peut l'être la discrimination contre d'autres groupes ethno-religieux. Et puis peut-être un dernier élément, un sentiment assez anti-musulman, notamment concernant l'incompatibilité des valeurs de l'islam avec les valeurs et le mode de vie de l'Amérique. Ce sentiment qui est particulièrement prononcé quand on décompose la population en groupes religieux, puisque on a 73% des évangéliques blancs protestants qui sont d'accord pour dire que les valeurs de l'islam sont incompatibles avec les valeurs de l'Amérique, 61% également des catholiques. Alors, qu'est-ce qu'a pu bien faire Trump pour séduire et capter, si vous voulez, ce sentiment ? Alors, déjà, il a vraiment envoyé des messages d'ordre général devant tout un tas de publics religieux pour leur dire qu'en gros, si je suis président, les chrétiens vont retrouver le pouvoir aux États-Unis. Hein, donc ça, c'est quelque chose sur lequel il est revenu constamment. Hein. Je vais protéger la chrétienté, je n'ai pas besoin d'être politiquement correcte, je le dis, comme je le pense, je vais protéger les chrétiens doivent retrouver le pouvoir qui leur appartient, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Hein. Il a stigmatisé les médias, justement, pour leur attitude moqueuse vis-à-vis des chrétiens, d'après lui. Il a vraiment tenu tout un tas de discours en ce sens. Nous respecterons, nous défendrons les chrétiens américains. Et il répète, les chrétiens américains. Hein. Les autres peuvent toujours... voilà. Quelque chose sur lequel on s'est beaucoup moqué de lui, au moment de Noël, il a dit, quand je serai président, on ne dira plus... Joyeuse fête, on dira joyeux Noël. Bon, ça peut faire rire, mais chez un certain public aux États-Unis, ça fait pas rire du tout. C'est quelque chose auquel on peut être extrêmement sensible. Alors, ça, ce sont des promesses qu'on va qualifier de générales, mais il a aussi fait des promesses un peu plus précises concernant les attentes de cet électorat chrétien qui se sent menacé, marginalisé. Il a promis notamment, et il l'a répété cette promesse il y a 3-4 jours lors du petit déjeuner de prière auquel participent les présidents tous les ans, il a dit, bon, c'est terminé le politiquement correct, les églises vont avoir le droit de dire ce qu'elles pensent, et elles vont avoir le droit notamment de dire... pour qui elles votent, qui elles soutiennent sur le plan politique. Et c'est quelque chose qu'elles n'ont pas le droit de faire, puisqu'il existe un amendement à la loi fiscale qui interdit aux églises de soutenir publiquement un candidat, sinon elles perdent leur statut d'exemption fiscale. Donc ça, il l'a promis, il l'a répété il y a 3 ou 4 jours. Voilà. Il a évoqué aussi, bien sûr, des contrôles concernant l'immigration musulmane. Et ça, il l'a fait de manière répétée devant des publics chrétiens conservateurs. Hein, c'est vraiment quelque chose... À chacun des discours devant des publics chrétiens conservateurs, il parle de limiter l'immigration musulmane et de privilégier parmi les réfugiés de ces zones en guerre les chrétiens. Hein, voilà, que ça suffit de... Que l'administration Obama a été lamentable, qu'elle n'a pas du tout été à la rescousse de ces chrétiens et que lui le sera. Hein, donc, il a vraiment, si vous voulez, capté, entre guillemets, ce sentiment de marginalisation, ce sentiment d'isolation et de victimisation que ressentent les chrétiens blancs aux États-Unis. Donc, il a su s'en emparer, il a su vraiment tenir un discours auquel ils ont été assez réceptifs. Alors, il me semble que c'est, si vous voulez, la droite chrétienne aux États-Unis, ça fait 40 ans qu'on prédit sa mort. Après chaque scrutin, on dit c'est bon, là, c'est terminé, c'est la fin de la droite chrétienne. Et avant les élections, justement, on disait, bon, avec un Trump candidat du Parti républicain, là, c'est vraiment, c'est sûr, on peut faire paraître l'avis de décès de manière définitive. Il semble que la droite chrétienne s'est réincarnée encore sous une nouvelle forme et que Trump a saisi cette forme. Alors, est-ce que cette nouvelle réincarnation va survivre à une présidence Trump, ou en tout cas, là, c'est la question qui mérite de se poser. Je ne sais pas si on va encore s'attarder à avancer des hypothèses avec Blandine, hein, parce que voilà. Merci beaucoup.